Mais Thomas passait des journées entières à la clinique et elle était seule à la maison. Encore heureux qu'elle eût Karénine et qu'elle pût faire avec lui de longues promenades. Quand elle rentrait, elle s'asseyait devant un manuel d'allemand ou de français. Mais elle avait le cafard et n'arrivait pas à se concentrer. Souvent, elle pensait au discours que Dubček avait prononcé à la radio à son retour de Moscou. Elle ne se rappelait plus rien de ce qu'il avait dit, mais elle avait encore dans l'oreille sa voix bégayante. Elle pensait à lui. Les soldats étrangers l'avaient arrêté dans son propre pays, lui, le chef d'un état souverain. Il l'avait enlevé, l'avait séquestré 4 jours durant quelque part dans les montagnes d'Ukraine, lui avait fait comprendre qu'ils allaient le fusiller comme avait été fusillé 12 ans plus tôt son précurseur hongrois, Imre Nagy. Puis il l'avait transféré à Moscou, lui avait ordonné de prendre un bain, de se raser, de s'habiller, de mettre une cravate. Lui avait annoncé qu'il n'était plus destiné au peloton d'exécution. L'avait enjoint de se considérer à nouveau comme un chef d'État. L'avait fait s'asseoir à une table en face de Brejnev. Et l'avait contraint à négocier. Il était revenu humilié. Et s'était adressé à un peuple humilié. Il était humilié au point de ne pouvoir parler. Teresa n'oublierait jamais ces pauses atroces au milieu des phrases. Était-il à bout de force? Malade? L'avait-on drogué? Ou bien n'était-ce que le désespoir? S'il ne reste rien de Dubček, il en restera ces longs silences atroces pendant lesquels il ne pouvait pas respirer, pendant lesquels il cherchait son souffle devant un peuple entier collé au récepteur. Dans ces silences, il y avait toute l'horreur qui s'était abattue sur le pays. C'était le 7e jour de l'invasion. Elle avait écouté ce discours dans la salle de rédaction d'un quotidien qui était devenu pendant ses journées le porte-parole de la résistance. À ce moment-là, tous ceux qui étaient dans la salle et qui écoutaient Dubček le haïssaient. Il lui en voulait du compromis auquel il avait consenti. Il se sentait humilié de son humiliation, et sa faiblesse les offensait. Maintenant, à Zurich, en songeant à cet instant, elle n'éprouvait plus aucun mépris pour Dubček. Le mot faiblesse ne sonnait plus comme un verdict. On est toujours faible confronté à une force supérieure, même quand on a le corps d'athlète de Dubček. Cette faiblesse, qui lui paraissait alors insupportable, répugnante, et qui l'avait chassée de son pays, l'attirait soudain. Elle comprenait qu'elle faisait partie des faibles, du camp des faibles, du pays des faibles, et qu'elle devait leur être fidèle, justement parce qu'ils étaient faibles et qu'ils cherchaient leur souffle au milieu des phrases. Elle était attirée par cette faiblesse comme par le vertige. Elle était attirée parce qu'elle-même se sentait faible. Elle était de nouveau jalouse et ses mains s'étaient remises à trembler. Thomas s'en aperçut et fit le geste familier. Il lui prit les mains pour la calmer d'une pression des doigts. Elle lui échappa. « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?»« Je veux que tu sois vieux, que tu aies 10 ans de plus, 20 ans de plus. » Elle voulait dire par là, « Je veux que tu sois faible, que tu sois aussi faible que moi. »